ont prévu passer outre le délai du 1er juillet.
Bon, c'est un appel qui a été fait mercredi, qui a été initié au départ par M. Trump, qui a couvert les derniers développements concernant l'Iran, la situation plus large au Moyen-Orient, puis les questions liées à l'OTAN, dont le sommet des dirigeants qui approche. Mais rien sur la CEM, on en parle avec Pierre Paulus, qui est député conservateur de Charlebourg-Haut-Saint-Charles. Monsieur Paulus, bon matin.
Bon matin. Bon matin à vous trois.
Merci d'être là. Quand même assez incroyable. La date, c'est quoi? C'est le 1er juillet, puis on n'a toujours rien de fait, alors que, permettez-moi, là, ça se peut que je me trompe, mais on nous a dit que Mark Carney, c'était le meilleur pour négocier avec Donald Trump, là.
Ben, c'est sur ce qui a été élu l'année passée, hein, souvenons-nous, campagne électorale 2025, M. Carney est arrivé, je suis le seul qui peut régler, qui peut discuter, régler les choses avec Donald Trump. Et les gens lui ont fait confiance. Et même, on avait à ce moment-là, on disait, toute l'entente sur les tarifs va être réglée le 21 juillet 2025. On est à proche de juillet 2026, il n'y a rien de réglé. Puis là, en plus, ben, la CEUM, on ne voit pas d'avancement. Honnêtement, là, c'est très inquiétant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas l'impact que ça a dans la vie des entrepreneurs, des entreprises. J'ai fait une tournée récemment avec deux collègues, Jason Grolot de la Beauce et Shelby Cramp Newman, qui est notre porte-parole des affaires canado-américaines. On a fait le tour, là, on est allé à Saint-Georges-de-Beauce, à la Pocatière, au Saguenay, à Québec, à Lévis, rencontrer à peu près 70 entreprises de différents niveaux, de très grosses entreprises et des moyennes. Et le mot qui revenait partout, c'était, un, l'incertitude, parce que là, les gens sont sur les breaks. Ils font plus d'investissement. Il y a les entreprises qui font déjà des affaires, qui ont un pied à terre aux États-Unis, transportent leur business là-bas, envoient la production du côté américain, ouais. Parce que là, l'impact des tarifs est terrible.
Monsieur Paulus, ça, c'est ce que j'entends beaucoup là, de la part des entrepreneurs beaucerons qui avaient déjà un œil sur les États-Unis. Puis là, ben, avec les tarifs qui sont imposés, ils se disent, regarde, je suis aussi bien d'aller l'autre côté directement, comme ça, je me ferai plus suer avec les tarifs de Donald Trump. C'est important de régler rapidement. Puis visiblement, Mark Carney, il semble avoir une stratégie qui n'est pas payante pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneuses?
Ben c'est ça. Nous, ce qu'on voit de notre côté depuis un an et demi maintenant avec M. Carney, c'est qu'il a créé beaucoup de structures, de nouvelles structures. Quand on pense, par exemple, à Maison Canada ou les bureaux pour défense, il a créé 10 nouvelles entités administratives à Ottawa. Mais quand on regarde les résultats, il n'y a rien. Dans la vie de tous les jours, là, ce qui aurait pu être fait pour aider les citoyens, comme par exemple la taxe sur l'essence, oui, enlever la taxe d'assises qui enlève 10 sous le litre, mais nous, on demande depuis le début d'au moins pour un an suspendre toutes les taxes pour donner un break de 25 sous le litre aux citoyens. On a différentes demandes comme ça, mais il n'y a pas au niveau de la structure globale du Canada par rapport aux entreprises, les entrepreneurs n'ont rien pour eux. Il n'y a rien pour leur permettre de continuer d'avancer, puis ça part par les négociations. Et là, ce qu'on voit, c'est que tout est sur le neutre. Il n'y a absolument rien qui bouge. À chaque fois que Dominique Leblanc va à Washington, il revient de là en disant, « Bon, on a eu des belles conversations. » OK, mais ça mène où, vos conversations? Et surtout, là, ce qui nous a choqués cette semaine, c'est justement d'avoir Donald Trump qui appelle Mark Carney. Ils ont passé peut-être 3/4 d'heure au téléphone. Ils n'ont jamais parlé de ça. Mark Carney devrait dire à Donald Trump, « Monsieur Trump, est-ce qu'on peut régler l'OCEUM? Est-ce qu'on peut régler? » Parce que nos entreprises, il y en arrache, ils sont sur les breaks, ils savent pas où ils s'en vont, il y a de l'incertitude. Et non, on a parlé de toutes sortes d'affaires, mais on parle pas de ça. Quoi la stratégie de Mark Carney? Là?
Trump serait pas dans les problèmes actuellement. Je regardais les chiffres pour mai au niveau de l'inflation. On est à 4,1 % alors que la cible, c'est d'avoir une inflation qui est autour de 2 %. Trump n'est pas dans une position de force présentement. Qu'est-ce qui fait en sorte que Carney ne tente pas d'initier ce type de conversation-là?
Ben, c'est la grande question et c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre la logique de Mark Carney. On essaie de voir, parce qu'actuellement, il a retourné beaucoup vers l'Europe. M. Carney est très orienté vers l'Europe, ouvert à la Chine, alors que la Chine, il faut être tellement prudent. Là, dans les rencontres qu'on a eues, justement, les entrepreneurs parlaient du dumping chinois, des produits qui sont envoyés ici à faible coût, qui font en sorte que nos entreprises canadiennes soient en arrache ou ne soient plus en mesure de vendre. Mais il y a une stratégie peut-être de dire on va aller vers d'autres marchés. Mais ça, on a compris que d'aller vers d'autres marchés, c'est bon pour tout le monde. Mais il reste que le marché principal des compagnies canadiennes, c'est le marché américain. Puis ça ne changera jamais. Et c'est pour ça que là, ce qui est inquiétant, c'est de avec un personnage comme Donald Trump, si tu moindrement, tu démontres que tu te fous d'eux autres, que tu veux aller ailleurs, ben lui, il va juste empirer la situation. Ce qu'il a fait avec les tarifs, et en passant, au mois d'avril, ça ne s'est pas parlé beaucoup, mais M. Trump a réimposé l'article 232. Puis ça, cet article-là, ça fait en sorte, en invoquant la sécurité nationale, fait en sorte que les tarifs sur l'aluminium, l'acier, sont pas seulement portés sur l'acier, par exemple, mais sur une pièce totale complète, qui inclut de l'acier. Donc, ça fait en sorte qu'il y a énormément de compagnies qui sont incapables maintenant de vendre aux États-Unis. Il y a des entreprises aussi manufacturières dans le meuble, vous avez vu il y a un mois ou deux, South Shore qui ont dû fermer, causé par, en partie aussi par le dumping chinois et asiatique. C'est terrible ce qui se passe. Moi, ce que j'ai vu aussi, les entreprises qui font affaire aux États-Unis s'en tirent pour l'instant. Par contre, on les perd au Canada parce que la production s'en va aux États-Unis. Mais les entreprises qui sont 100% canadiennes, eux autres, il y en a qui se préparent à fermer ou il y en a d'autres qui font, c'est qu'ils empruntent des millions de dollars juste pour maintenir leurs employés, pour ne pas perdre leurs employés, mais ils ne font plus de business. Fait qu'à court terme, là, écoutez, dans les 4, 5, 6 prochains mois, là, ça va craquer s'il n'y a pas rien qui se passe.
Monsieur Paulus, il y a beaucoup de choses à dire sur les projets de loi qui sont passés en force à la Chambre des communes. Je vais vous laisser libre cours d'aller dans la direction que vous voulez parce que je ne sais même pas où diriger ma question, mais il y a C9, C22, C34.
Ouais.
Il y a des projets de loi qui passent et c'est très, très préoccupant. De quoi vous voulez nous alerter un peu plus ce matin ou sur quoi on devrait mettre la lumière précisément?
Ben, c'est souvent quand on touche à la liberté d'expression, par exemple avec C9, mais C22, le dernier là, qui vient d'être envoyé au Sénat, lui, celui-là est très préoccupant parce qu'à la base, C22, parce que les gens ne savent pas nécessairement ce que ça fait, là,
ouais.
c'est un projet de loi qui vise à contrôler les communications, surtout à imposer. Ben, il y a deux volets. Le volet 1, c'est de donner plus d'outils aux agences de renseignement comme le SCRS. Ça, là-dessus, sur le première partie, là, le volet 1 de la loi, généralement, on s'entend, on est capable d'appuyer. Mais c'est la partie 2 qui est problématique. La partie 2 de la loi impose aux compagnies de télécommunications de fournir de l'information sans mandat de juge, donc sur un ordre ministériel secret, de fournir de l'information sur les individus, des personnes, d'avoir les données de leur communication, que le gouvernement pourrait avoir ça, pourrait garder ça même pendant un an. Bon, l'objectif premier, c'est de contrer des menaces terroristes ou des gangs, ça irait vers des criminels. Mais là, le problème, c'est que la loi est tellement large, l'application de ça devient trop facile. Donc, le gouvernement, sur une simple demande de ministre, de façon secrète, peut demander n'importe quoi à des compagnies de télécommunications. Ces compagnies-là n'auraient pas le choix de fournir l'information. Le gouvernement garderait les données très longtemps. Il y a énormément de points. Nous, du côté conservateur, on a proposé plus de 60 amendements au projet de loi en comité de la sécurité publique pour protéger la liberté civile, tout en comprenant qu'on doit avoir des outils pour être capable de contrer le crime. Mais les libéraux, avec leur nouvelle majorité, ont complètement rejeté ça du revers de la main et ont forcé l'adoption du projet de loi là, qui maintenant est rendu au Sénat. Donc, on a vraiment un gouvernement, là, il n'y a pas de conspirationnisme, là, quand il y en a des fois qui vont dire « Ah, vous êtes fous, non, non. » Nous, là, comme conservateurs, ce qu'on veut, c'est vraiment protéger la sécurité publique, avoir les outils pour combattre le crime organisé ou l'espionnage. Bon, mais de l'autre côté, on doit aussi protéger les citoyens. Alors, c'est pas vrai que tu peux permettre à un gouvernement de faire une intrusion dans ta vie privée de façon là, arbitraire.
Pierre Paulus, il y a eu un sondage qui est paru, si je ne me trompe pas, c'était en début de semaine, sondage LSG. Là, on a posé des questions aux Québécois à savoir qui aimait le plus, qui aimait le moins. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens au Québec semblent être en amour avec Mark Carney? Puis quand on regarde le score d'appréciation des moins élevés, sur le top 1, 2, 3, 4, 5, mettons top 5, il y a trois conservateurs, fédéral et provincial. Je trouve ça particulier. C'est-tu la couverture médiatique? C'est-tu Pierre Poilievre qui passe pas au Québec? Qu'est-ce que vous devez faire pour augmenter dans le cœur des Québécois?
le Québec, puis j'ai souvent des conversations avec mes collègues anglophones, d'ailleurs au Canada, puis nous, on a... c'est sûr qu'on a une approche plus émotive comme Québécois. Lorsque c'est le temps de voter, les anglophones sont plus cartésiens, cérébraux. Nous, on est sur l'émotion. On aime ou on n'aime pas. Donc ça, c'est un facteur qui est toujours très difficile. L'exemple, c'est Mark Carney. Écoutez, ce monsieur-là est arrivé. anglophone, difficulté à parler en français, mais il y a quelque chose en lui que les gens ont dit, oh, l'aime, on y fait confiance. Mais le reste, tout ce qui se passe, comme on vient de parler, par en arrière, on dirait qu'à partir du moment où les gens ont donné le. On dit, on aime le personnage, ils ne regardent pas ce qui se passe. C'est ça la particularité au fédéral, hein, c'est que c'est une politique qui est moins observée attentivement, puis on n'a pas tout le détail. Les gens n'ont pas tout le détail de ce qui se passe. Et il reste que c'est vraiment une question de juste d'une perception. Par la suite, là, on va voir s'il se passe rien justement avec la CEUM, que M. Carney n'a pas de résultat pour les poches des Canadiens. À un moment donné, les gens vont dire, oups, qu'est-ce qui se passe finalement à Ottawa? Il n'y a rien réglé, lui? Bon, là, ça peut, le vent va retourner. Il reste que, de notre côté, comme conservateurs, c'est sûr qu'on est dans une position de parti d'opposition. Fait que c'est sûr qu'on est en mode plus de critique, mais c'est notre job. Il faut critiquer ce qui se passe. Mais il y a aussi de l'autre, le mauvais côté de ça, les gens disent, les conservateurs font juste chialer. Au lieu d'écouter parfois ce qu'on a à dire et les raisons pour lesquelles on critique, c'est la façon de le transmettre, la façon de faire comprendre qu'on se doit de critiquer des décisions d'un gouvernement lorsque ça fait vraiment pas de sens dans l'intérêt public. Et souvent, quand on est positif, qu'on est d'accord avec le gouvernement, ça, on n'entend jamais parler. Fait que là, quand vous parliez des médias, c'est un peu ça. Je le dis souvent aux gens, 95% de ce qui se passe à Ottawa, vous n'entendrez jamais parler. Puis quand c'est positif, quand on s'entend, on vote, on supporte le gouvernement, ça fait pas la nouvelle.
Je regardais, je pense que c'est la chronique de Mario Dumont ce matin dans le Journal de Québec, ouais. Une chronique sur Mark Carney en général. Ce que Mario Dumont dit, c'est qu'il doit maintenant livrer des résultats. Son bilan est surtout fait de discours et d'intentions. C'est vrai que pour ses intentions, c'est des intentions qui sont intéressantes, qui sont valables. Ses discours, il y a eu quand même un bon discours là, dans les derniers mois qui a fait jaser la planète dans son entièreté. Mais concrètement, il n'y a rien de concret. Là. Le Canada est encore plus endetté que dans l'ère Trudeau. Là.
C'est ça qui est particulier avec Mark Carney. Parce que je pense, moi, j'ai tout le temps dit, il y a une approche d'un président d'entreprise. Premièrement, le Parlement, il n'y a aucun intérêt pour le Parlement. Même, il s'est fait prendre cette semaine dans une conférence, il était en privé, puis il y avait un micro d'ouvert, puis il a dit, moi, les députés, ça sert juste, ça sont pratiques juste pour avoir des votes. Donc, pour lui, là, vraiment, le travail parlementaire, la représentativité parlementaire, c'est t'as aucun intérêt. Mark Carney a comme un plan d'affaires, puis il essaie de mettre en place. Là, il crée des structures administratives, mais pendant ce temps-là, effectivement, le déficit a été deux fois plus élevé que ce que Justin Trudeau avait prévu. Exact. Imaginez-vous. Hein? On n'a aucune mesure de contrôle de diminuer les dépenses. Au contraire, on fait juste faire des annonces qu'on va... C'est bien beau de dire le mot « investir », mais il reste qu'à la fin, c'est de l'argent que tout le monde emprunte sur combien sa carte de crédit, encore une fois. Donc, notre situation financière au Canada se détériore et le coût de la vie continue d'augmenter. Là, les gens disent « OK, mais là, les loyers, le prix des maisons, l'épicerie, le gaz, tout coûte plus cher, j'arrive plus. » Puis pendant ce temps-là, tu te retournes puis tu regardes. Ce qu'on est, c'est quoi vous faites vraiment là, qui va aider la vie des citoyens? C'est là qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'il joue un jeu plus macroéconomique, mais à court terme, là, il n'y a rien de concret pour les gens.
Parce qu'à un moment donné, il faudrait que ce soit payant pour les Canadiens, mais c'est ça, je m'expliquais mal le sondage, parce que, je veux dire, la plupart des gens gèrent leur portefeuille à droite,
ouais.
Mais s'attendent à ce que le gouvernement gère à gauche. On dirait que c'est pas... ceci ne vient pas nécessairement avec cela, alors que moi, je gère mon portefeuille à droite. Là. Je fais attention à mon argent. J'essaie de payer le moins cher possible. J'essaie d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Puis une fois rendu au gouvernement, là, on dilapide cet argent-là, puis ça semble plaire aux Québécois. Peut-être aller chercher une clientèle du côté, si je peux vous soumettre une hypothèse, t'sais, peut-être aller chercher la clientèle peut-être plus vieille. Je me souviens d'une dame qui disait, ce soit à RDI ou à LCN, « Vaut mieux une dette que Pierre Poilievre. » Ben elle, est-ce qu'il y a-tu moyen d'aller la chercher, cette dame-là, t'sais?
Il faudra. Puis, écoute, le problème qu'on a aussi, c'est il y a beaucoup de désinformation. Moi, je l'ai vécu en campagne électorale l'année passée. Je visitais une résidence personnes âgées. Puis les gens me disaient tous, les conservateurs, vous allez couper toutes les pensions. On n'aura plus de pension fédérale. On n'aura plus de... Ben, j'étais là, vous prenez ça où, cette information-là? Ah, on a entendu ça. Donc, il y avait des choses, par où viennent ces informations-là qui sont totalement fausses. Puis, genre, la journée même ou le lendemain, M. Poilievre faisait une annonce pour dire qu'au contraire, on supportait les personnes âgées, que les gens qui veulent retourner au travail, on proposerait un changement fiscal pour permettre de ne pas payer d'impôts, ce que les gens nous demandent régulièrement. On l'a annoncé, ça, mais ça a passé nulle part des nouvelles, évidemment. Mais les gens, eux autres, de leur côté, ils disaient « Ah, les conservateurs veulent tout nous couper. » Fait que ça, c'est des choses qu'il faut travailler, de faire comprendre aux gens qu'il n'est pas question couper, là, surtout pour les personnes âgées qui en ont besoin, mais il y a beaucoup d'autres endroits où on peut faire des coupures, parce qu'il faut faire des coupures. Tu peux pas juste dépenser sans couper nulle part. Mais couper, ça veut pas dire d'enlever de l'argent aux citoyens. Au contraire, les conservateurs, on travaille pour aider le citoyen. Mais il y a des gens qui reçoivent des millions, des milliards, qui peut-être devraient pas en avoir. Puis ça, il y a du ménage à faire.
Pierre Paulus, un bel été, un gros merci.
Hey, merci beaucoup, bonne journée.
Au revoir, bye-bye. Pierre Paulus, député conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. On parlait justement de cette discussion de presque une heure là, entre Donald Trump et Mark Carney. Il me semble que ça aurait été le temps de parler de l'entente entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Il y a une petite date qui s'en vient. Là. Nous autres, c'est le déménagement, mais pour eux autres, c'est l'entente avec l'ACEUM. Ils n'en ont pas parlé pantoute.
Bien, elle va être renouvelée, c'est tout.
Elle va être renouvelée pour un an?
Ben oui.
Puis on nous dit que ça pourrait aller jusqu'en 2042.
C'est ce que tu disais plus
2036
tôt,
au ouais. départ, c'est ce que Jean Charest avait dit à Tout le monde en parle. Mm. Puis là, on nous parle plus de 2042.
Oui, bien en gros, c'est que la date du 1er juillet, on peut se redonner un délai pour continuer les négociations si les trois pays sont d'accord. Là, on parle d'un délai autour de 30 jours. Mais si on n'arrive pas à une entente, on pourrait arriver à une entente qui ferait en sorte que l'entente arrive seulement à échéance en 2042. Mais si on n'arrive pas à une entente, on garde l'entente actuelle qui se terminerait en 2036.
Donc, on dit que c'est l'avenue que le Canada et le Mexique ont dit espérer. Un article très intéressant sur le site de Radio-Canada. On va faire une courte pause, si tu le veux bien, juste avant. Mathias, comment ça se passe sur la route?
Ça se passe bien. Honnêtement, juste Québec 511 qui vous dit de vous armer de prudence en raison des risques d'aquaplanage.
Pour nous informer de ce qui se passe